Bonjour, bienvenue sur Radio Méga. Cette fois le format de l'émission est un peu spécial car c'est un crossover entre deux émissions numériques dans laquelle vous retrouverez les animateurs de Cyberculture de Cause Commune et Underscore au grand complet. Cette émission a été enregistrée à l'occasion de l'Alchimie. Nous nous excusons pour la qualité sonore qui n'enlève pas la qualité des discussions autour d'une table ronde sans table. Attention, c'est parti.
Donc, alors, autour de moi, en fait, on a Anya.
Oui, de nouveau.
Voilà, de nouveau, qui revient sur Radio Méga. On a Emma Muman.
Coucou.
Hello.
Bonjour.
Voilà, de Cause Commune, tout à fait. Et puis, on a bien sûr moi, Cécile. Et puis, Matt.
Bonjour.
Bonsoir.
Attends, je vais m'approcher de toi parce que t'as l'air d'avoir un petit micro.
J'ai un micro.
C'est pour ça que ta voix est aussi haut perché.
Quoi?
Ok. Non, en fait, c'était... Non, on n'avait pas besoin de moi.
Je pense qu'il fait juste exprès, mais bon,
bien
après...
Bien entendu, William.
Voilà.
J'ai mis un peu de basse dans ma voix.
Je vois ça.
Nous sommes en plein enregistrement pour Underscore et pour aussi Cause Commune.
Oui.
Tu vas y arriver.
Voilà. Et je vais y arriver. Et donc, nous sommes réunis à l'Alchimie. Donc à Terre-l'Hermitage, qu'on vous a annoncé plusieurs fois.
Alchimie !
Voilà, ça y est, on y est pour de vrai. Et nous allons vous parler d'un sujet que nous avons choisi avec intérêt, puisque c'est vrai que cette semaine, qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Eh bien, cette semaine, comme beaucoup de personnes qui sont dans cette salle...
Ton site est tombé !
Il y a eu un gros blackout.
Voilà, le blackout de OVH.
La OVH Gate.
Yeah. Peut-être expliquer ce que c'est.
Ou les objets connectés, parce que c'est quand même le sujet, ils sont doux dépendants des objets connectés. Il y avait un troll qui circulait, après, est-ce que c'est vrai ou pas, sur les objets connectés, parce qu'on est dépendant du cloud. Et le cloud, aujourd'hui, oui. Je vous rappelle qu'OVH, c'est quand même le premier hébergeur européen, et troisième hébergeur mondial. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de sociétés qui hébergent leurs serveurs et des applications d'entreprise pour les particuliers ou pour des entreprises. Et imaginez-vous qu'un matin...
Il y a 20 ans.
Non, ce matin, vous êtes chez vous, vous essayez d'ouvrir votre volet. Il ne s'ouvre pas parce que votre volet est géré par cloud.
Non, mais même pire que ça, ouvrir la porte d'entrée.
Oui.
Mais le cloud n'existe pas, c'est juste l'ordinateur d'un autre.
C'est vrai, c'est vrai.
Du coup,
sommes nous retrouvés
sans dépourvu,
la
mise fut une.
J'ai un pont de dire ça, je me suis retrouvé bloqué dans mes toilettes.
Carrément.
Il était 7h33, très exactement. Je lisais un magazine informatique dans le livre, et sur la page, c'était la page où on parlait des 120 000 serveurs de chez OVH.
C'est pas mal.
Oui. Et donc ce jour-là, t'as...
C'est un magazine qui date de 5 ans, qui date de... Bon bref, c'est une autre histoire. Donc, la question c'est, sommes-nous dépendants des objets connectés ?
Première réponse, je te dirais oui, en grande partie. Et dans un autre sens, on peut encore s'adapter à s'en passer, je dirais. Beaucoup de gens sont dépendants, mais encore peuvent s'en passer. Mais on y arrive petit à petit, c'est ce qui est voulu. Sur le long terme.
Est-ce que tu comptes dans les objets connectés le téléphone portable ?
Bien sûr.
Ok.
Tout à fait.
Alors on est mal barré.
Ben, quand ton smartphone, on te le fait voler. Par exemple, ta marque Pomme en question. D'accord ? La marque Pomme vient de se faire voler. Tu en rachètes une autre. Tu mets ton compte mail et ton mot de passe. Et boum, tu retrouves toutes tes applications, tes numéros de téléphone. Enfin, tout ce que tu avais de base à l'initial. Et même si tu enregistres avec tes photos, ces photos-là se resynchronisent sur ce téléphone. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Oui, tu es en partie dépendante. Mais si tu avais tout perdu, c'était pas grave en soi, on aurait pu s'habituer. Et là, on va habituer les gens à ne plus pouvoir perdre leurs données.
Oui, mais si tu vas à la concurrence, tu perds tes données aussi.
Oui.
Tu quittes la Pomme pour aller sur un autre...
Même sur le robot Android, tu peux sauvegarder les données à l'équivalent de Apple via ton compte Gmail.
Il faut avoir un compte Gmail et si tu veux le synchroniser avec autre chose, ça devient plus compliqué.
Et du coup, tu peux le synchroniser dans ce moment-là. Il y a aussi Dropbox qui est très célèbre pour ce système-là, que beaucoup de gens vont utiliser en dehors d'utiliser leur compte Gmail. Du coup, oui, en partie, on est très dépendant, mais je pense qu'on peut encore s'en passer pour le moment. Mais ça force déjà des gens à s'habituer à ce genre de système.
La grosse difficulté, effectivement, c'est que tu te retrouves effectivement dans un système où tu ne peux plus faire autrement, finalement. Tu te retrouves bloqué, coincé, dépendant.
Alors si, tu peux t'auto-héberger. mais la tête à toto,
enfin, la tête à
toto, c'est compliqué.
C'est pas la portée de tout, c'est pas la portée de tout le monde non plus. Moi, je suis complètement dépendant du truc parce que en ce moment, je suis en train de financer un magazine sur Ulule. Donc, il est financé le magazine, mais on a eu la mauvaise surprise de voir ce matin que le...
Oui, non, mais c'est sensible.
C'était ce matin que c'est arrivé ? Non, hier matin ?
Hier matin,
c'était... Ben, que le site Ulule était HS, tout simplement.
Oui.
Il y avait Upworks, donc, Ulule, BFM TV, BFM Business et moi.
À peu près trois quarts du web français.
Ouais.
Mais après ?
Donc trois quarts du web français officiel, après trois quarts du web Warez.
Oui, aussi.
Non, parce que le truc, pour dire que pour le magazine qu'on veut fonder, à quel point on est dépendant du net, c'est que c'est un magazine qu'on ne veut pas vendre en kiosque, qu'on veut vendre uniquement par Internet. Donc à partir du moment où on foire le financement à cause du... Bon, là, le magazine est financé, il reste encore 7 jours de campagne Ulule, donc c'est bon. Mais si du jour au lendemain, on venait à ne plus avoir Internet de façon durable, ça fout en l'air tous nos projets.
Le seul point, c'est que là, on parle de Internet, donc c'est...
Et on parle pas de toi.
Non, c'est destiné à un public, on va dire, spécialisé, ou soucieux d'utiliser l'accès au contenu informatique. Mais l'objet connecté n'est pas que l'Internet. Il faut penser que l'objet connecté va aussi dans les maisons. Tout à l'heure, William parlait de voler.
C'est pour ça que c'est plus un public spécialisé aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde.
La nouvelle génération qui est en train d'arriver, donc on va parler de domotique, les produits de tout ce qui est réfrigérateur.
Oui, des produits grand public, vraiment tout le monde.
Les frigos,
les trucs qu'on nous a promis il y a 20 ans, en fait, ça arrive.
C'est ça, et qu'on voulait pas spécialement, mais qu'on nous impose un petit peu parce que c'est la nouvelle technologie. Du coup, il faut qu'on passe à ça, sinon on est complètement has-been.
Alors en français, on dit aussi informatique ubiquitaire. Parce qu'elle est partout et on la voit pas.
Profitez-en, parce que les termes français dans l'informatique, c'est du repas en général.
Oui. Mais il y a aussi une poêle connectée. La poêle connectée existe. Allez.
Non, mais demain, tu auras le PQ connecté.
Tu es à poil et connecté.
Alors ça, venant de Hello Sector One, ça ne m'étonne pas. Allez.
fait par deux fabricants français. Il n'y a pas que, mais d'autres aussi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà démontré, dont les vidéos sont disponibles sur Internet, que vous pouvez sortir un steak du congélateur, le mettre dans la poêle, vous programmez directement le temps de cuisson. Si vous voulez que votre steak soit à point saignant, et ben vous le programmez.
Et quand ton VH plante, et ben tu manges un steak congelé.
C'est à peu près ça, mais du genre 3 minutes après, ça fait bip, ça, et puis vous le retournez.
Non mais c'est trop bien là.
Et 2 minutes après, c'est cuit. Ce qui veut dire qu'en 5 minutes, il est passé du congélateur, décongélation, cuisson, pour vous proposer une viande dans la façon que vous aimez. Mais le seul problème, c'est que c'est la poêle qui va décider s'il faut vraiment que ça soit saignant-saignant ou saignant-cuit.
Non mais tu sais, il y a un truc, ça s'appelle un minuteur. Tu tournes, tac-tac-tac, et puis au bout de 3 minutes, ça fait bip aussi. Wow. Et il n'y a pas besoin que ça soit connecté.
Mais c'est magique.
Oui, mais justement, là on parle d'éléments connectés justement. Et c'est un élément qui peut effectivement poser problème. Si un jour on a amené un blackout, imagine qu'on a tout de manière numérique ou électronique. Bah, regarde. Tu fais comment si une personne n'a jamais fait de feu de sa vie? Elle fait comment pour se dire « je fais comment du feu ?»
Et pour parler poliment par rapport aux objets connectés, je vois aujourd'hui il existe des robots auto-cuiseurs qui font tout, qui font de la recette, qui téléchargent la recette sur Internet, qui te mettent qui te proposent des ingrédients. Et ce qui fait que tu n'as plus besoin de savoir cuisiner aujourd'hui.
Oui, mais c'est comme pour tout, on nous rend dépendants. Je dis qu'encore aujourd'hui, on est encore dans une phase où on n'est pas complètement dépendant. On peut s'en passer. Demain, t'as tout qui est en panne, c'est pas grave. Tu sais faire du feu, t'as un briquet, t'as des allumettes, tu peux...
Demande à Wikipédia.
Non, pas forcément.
Voilà, c'est parce que tu dis que t'as plus besoin de cuisiner, mais comme t'as plus besoin de culture générale aujourd'hui, parce que tu sais qu'il y a Wikipédia sur lequel tu peux te reposer.
C'est ça. Le souci, c'est que oui, on a une génération actuelle qui va vite se renseigner sur Wikipédia, tout ce genre de système, qui va l'embobiner à se dire, t'as pas besoin d'apprendre, tout est là. Le jour où ces éléments-là ne sont plus là,
oui, parce que qu'est-ce qu'ils vont transmettre plus tard au lycée, voilà. Quand on disait les maths ça sert à rien, de toute façon, il y a pas besoin de savoir compter puisqu'on a des calculettes.
Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de gosses qui ne savent pas utiliser une calculette parce qu'en fait, ils sont tellement nuls en calcul mental qu'ils croient le résultat de la calculatrice même quand ils sont trompés. Ils n'ont aucune idée de la grandeur, de l'ordre de grandeur du résultat, donc la calculatrice dit que c'est ça, donc c'est vrai.
C'est effrayant.
Cependant, là pour en revenir à la nourriture, poêle connectée, frigo, enfin tous ces objets-là, ça veut dire qu'on n'a plus le contrôle alimentaire. Ça veut dire la molécule de l'aliment. Qu'on peut contrôler, c'est-à-dire que là on est dépendant d'un produit électronique qui va nous dire comment manger. Si vous voulez choisir votre façon de manger, vous ne pourrez plus parce que l'objet est connecté, dépendant d'un serveur distant. Si ce serveur tombe en panne, vous ne saurez plus vraiment comment cuire ou le chauffer, puisque la poêle ne fonctionnera plus, puisqu'elle sera plus reliée au serveur qui sera en panne.
Mais on a déjà des objets connectés qui nous disent comment manger. Ça s'appelle une télévision.
Non, mais au-delà de tout ça, quand on arrive et qu'on se dit « oui, c'est la machine qui va choisir à ma place le mode de cuisson », même si les modes de cuisson sont établis selon un standard que certains cuisiniers ont révélé, que pour avoir du saignant, il faut la laisser 5 minutes d'un côté et de l'autre, pour l'avoir à point, ainsi de suite. C'est vrai qu'on peut avoir des gens qui peuvent avoir la fonction du « j'aime bien entre les deux ». Et si bien cette fonction ne sera pas du tout modulable. Et c'est effectivement là que le problème s'impose, c'est la machine qui va imposer à l'homme comment elle va devoir faire sur des dires de d'autres personnes, même si la machine, elle est programmée par quelqu'un au final.
C'est bien ça. Et donc ces données sont stockées quelque part.
Donc, non mais quelque part, en revenant dans ce que vous dites, on a un gros problème d'hyperconnecté. On est dans une hyperconnexion où on est interdépendant de la machine. C'est pour ça que quand il y a eu la panne d'OVH par exemple, les gens se disent mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, etc. On pense qu'on est dans une continuité de service, mais on est dans un délire de film de science-fiction. Une continuité de service, c'est improbable. On nous vend du 99,9% de capacité à ton hébergement va toujours tourner, alors que c'est improbable.
Alors déjà, il faut encore que la boîte survive, parce que les thermostats connectés Nest qui ont été rachetés par... c'est Google, non, qui avait racheté Et puis du coup, ils ont décidé qu'en fait, non, ils supprimaient le serveur. Donc en fait, vous avez une boîte, une jolie boîte à 300 euros, mais qui ne sert plus à rien parce qu'il n'y a plus de serveur pour se connecter dessus.
Ça, ça me rappelle un lapin qui était tout blanc, qui était connecté. Oui.
Mais en fait, c'est sûr que quand on regarde ce genre de projets qui vont s'écrouler, effectivement, ça montre un exemple de ce que ça peut être plus tard. Là, ils sont en train de déjà penser à des voitures connectées. Le jour où ils ferment le serveur de cette voiture connectée-là, pour en ouvrir un autre, admettons, c'est un moyen comme un autre pour te forcer à l'achat aussi. Donc quelque part, il y a tout un système derrière qui se débloque.
Oui, c'est une stratégie commerciale.
C'est une stratégie commerciale, c'est aussi une stratégie de nous infantiliser quelque part, puisque apparemment, on ne saurait pas conduire correctement, tu vois. Donc du coup, c'est un petit peu... Ça commence à arriver dans un cercle un peu vicieux, même si le fait d'évoluer technologiquement, ça a un côté toujours un peu fantastique, puisqu'on l'a vu dans des films de SF, des voitures qui volent, qui sont toquidées, ça a toujours fait un peu rêver. C'est sûr que le jour où les serveurs s'effondrent...
On le voyait, ça, c'est le genre de truc qu'on voyait il y a 30 ans, mais qu'on voit beaucoup moins ces 10 dernières années, quand
même. Oui, bah ça, c'est sûr. Parce que la technologie, on se rend compte qu'elle n'évolue pas aussi vite. On s'en rapproche, mais pas aussi vite que ce qu'on pense, oui.
Ouais, mais au moins Stallone ou Bruce Willis, ils pouvaient péter la tête du pilote pour prendre le contrôle de la voiture quand même. Le pilote automatique, tu pouvais lui éclater la tête pour prendre le volant.
Déjà, un, c'était Arnold Schwarzenegger et c'était dans Total Recall. Hein.
Total Recall, tout à fait.
c'était pas, il y avait pas aussi dans Judge Dredd, non c'est pas Judge Dredd, c'est plus Demolition Man, il y a pas une séquence aussi où...
Peut-être tu confonds avec Demolition Man. Mais ouais. Non mais le robot taxi, c'est dans Total Recall.
Tout à fait.
Et mais... l'arrache, c'est moi qui conduis.
Tout à fait.
Block.
Mais au final, c'est pareil, si le serveur déconne, vous êtes dans la voiture. La trajectoire n'est pas bonne.
Ah, et s'il a décidé de mettre
les GPS qu'on rencontre déjà au quotidien, vous savez, les problèmes réseau qu'on a sur les GPS. C'est effectivement un danger imminent, mais on se dit, forcément, ils y ont pensé. Oui. Mais ils n'ont pas pensé à un problème solaire ou ce genre d'éléments qui peuvent perturber les satellites.
Mais à l'époque, tu avais les trolls du patron de General Motors avec Windows, et tu avais donc Bill Gates qui avait demandé explicitement au patron de General Motors, est-ce que ça vous intéresse d'avoir des tableaux de bord Microsoft, pas pour piloter la voiture. Il a fait, et bah, si le tableau de bord il plante autant que plante vos Windows 98 ou 95, bah, j'en veux pas.
Tout à fait. Alors, ça fait flipper.
Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas encore relevé, c'est le côté hacking. Ça veut dire que ton objet connecté, s'il est hacké, dans ces cas-là, tu perds le contrôle total.
Ah non, pas forcément. C'est peut-être justement un gage de pouvoir reprendre le contrôle. Il faut que ce soit hackable.
Le truc, c'est que ça sera toujours hackable. C'est juste que maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je trouve qu'il y a un peu moins de hackers qu'avant.
Ah bon ?
De vrais hackers ?
Même les jeunes, les plus jeunes. Il y a de moins en moins de jeunes hackers. C'est toujours les anciens, les mêmes, hein, qui vont faire du piratage.
Non.
Parce que c'est les anciens qui hackent pour les jeunes. Donc les jeunes, ils n'ont pas besoin de faire.
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Encore, quelque part, ils sont dépendants.
Il y en a encore, mais je trouve qu'il y en a de moins en moins. C'est mon impression.
Il faut que tu ailles voir au CC Camp ou au CCC en décembre. En décembre, c'est dans un mois. Hein.
C'est ça.
C'est le 25 C3, enfin la conférence du Chaos Computer Club.
Ce qu'il faut penser, c'est qu'il existe des écoles en Chine, 3 reconnues. Je crois qu'ils en ont
ouvert. Ah, mais c'est des écoles carrément, eux. Mais ils n'ont pas encore fait de haut fait connu, quoi, du grand public, on va dire.
Ils ne le disent pas.
Oui.
Ces écoles existent depuis 10 ans. Donc ça veut dire qu'ils sortent tous les ans des nouvelles générations
de hackers.
De hackers. Et ils en ont sorti une quatrième. Et ce sont des écoles qui sont reconnues. C'est-à-dire, ce sont des écoles qui sont identifiées.
Ouais, mais c'est des mecs qui sortent de leurs écoles, alors qu'il y a 20 ans, les hackers, c'est des mecs qui sortaient de leur garage et qui faisaient leur truc chacun dans leur coin et qui sont super nombreux.
Moi, je trouve que la même formation, déjà. Le formatage, entre guillemets, du hacking, c'est pas que ça me fait rêver, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont être performants, je pense, je n'en doute pas, mais peut-être pas autant que quelqu'un effectivement qui sort d'un garage. Comme je dis, c'est les autodidactes surtout qui me font peur de voir qu'ils disparaissent de plus en plus, en fait. Il y en a de moins en moins. Il y a toujours les anciens, forcément, mais les petits nouveaux, il y en a pas beaucoup. Regarde par exemple pour la PSP, la PS Vita, tout ce genre de choses, quand ça a été piraté, on avait Dark Alex à l'époque, ce genre de choses, enfin des grands noms qu'on connaît encore aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, on les entend de moins en moins, forcément, parce qu'ils n'ont peut-être pas la même routine de vie. Mais du coup, les générations suivantes,
c'est
ne
toujours les
pas
mêmes noms qu'on revoit de toute façon. Et on a l'impression qu'il n'y a personne qui prend le relais, finalement.
Les Razors,
on se repose un petit peu sur
les lauriers de ceux-là, ouais.
Si. Va regarder les vidéos du 20, je ne sais plus lequel de CCC, mais il y a, tu vois, le craquage de la Wii U, enfin, je ne sais plus. Il y a des consoles qui se font craquer aussi régulièrement. Et voilà.
Donc,
ça vient. Alors après, c'est vrai que ça s'est institutionnalisé. Il y en a qui se font employer par les boîtes de jeux, par la police aussi. Enfin, effectivement, et donc ils ont un vrai boulot. Ils peuvent vivre de ça. Mais
en France,
on a toujours besoin d'un hacker pour le debug. Ça c'est clair. Pour être sûr que tout est sécurisé. Donc,
en France, il existe l'équivalent du CCK, qui s'appelle la nuit du hack au mois de juin. Ils font de plus en plus tous les ans énormément de plus de personnes qui viennent visiter et participer à leur événement. Donc l'événement, ça fait quand même 15 ans qu'il existe et qui prend de plus en plus d'ampleur. La majorité des participants qui se déplacent sont autodidactes et ne sont pas du tout ne suivent pas un cursus scolaire classique. Donc ce qui montre que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas très médiatiques, mais la volumétrie, enfin le nombre de personnes qui s'y intéressent, le nombre d'écoles de la sécurité qui s'y intéressent, qui apparaissent dans toute la France, a vu le nombre s'agrandir. Et ces personnes qui sont, on va dire, même certaines vont rester dans le milieu scolaire ou respecter le cadre légal, mais beaucoup vont en faire en dehors. Donc certains, oui, on ne les connaît pas encore, mais la volumétrie, c'est sûr, peut-être donne l'impression qu'elle est inférieure par rapport aux années il y a 10 ans, mais elle est toujours là. Donc la forme change, mais...
Ils se revendiquent pas tous comme hackers. Il y a les libris, surtout en France, le terme hacker a été assez galvaudé, parce que les flics disaient, ouais, enfin voilà, c'était... contrairement à l'Allemagne, où ça n'a jamais posé problème. Mais du coup, il y a les libris. Mais il y a quand même plein de hackerspaces qui ont ouvert en France ces dernières années aussi. Donc il y a plein de choses. Il y a des Fab Labs aussi. Alors, tout le monde ne fait pas de l'informatique à ce niveau-là, etc. Mais il y a quand même des choses. Ouais.
Oui, mais encadrons le sujet sur les jeux déconnectés, parce que là, vous partez dans le délire de les hackers et ça. Ce sera l'objet d'un autre débat.
Il y a des gens qui nous ont rejoints, donc si vous avez envie de dire quelque chose aussi, levez la main, on vous passe le micro, il n'y a pas de souci.
Vous pouvez passer des notes si vous ne voulez pas parler.
Mais justement,
des petits billets doux.
Parler des hackers n'est pas en soi.
Je sais que Hello, il veut des billets doux.
Pour revenir effectivement des objets connectés, les hackers n'est pas non plus un centre non dénué par rapport aux objets connectés. C'est pareil, si un jour un hacker a accès à des données, décide de les killer ou de les modifier ou de faire ce qu'il veut avec,
dans le cloud, après,
c'est comme un mini-dieu, en fait, au final, sur un domaine précis. Si c'est pour cuire ta viande, si c'est pour te laver ou ce genre de choses...
Prenons le sujet. Voilà. Revenons au VH, malheureusement.
Voilà.
Heureusement ou pas, c'est l'attaque d'OVH avec les caméras connectées, avec les logins et les mots de passe par défaut. Donc ils ont une attaque DDoS. Donc ils ont eu, je ne sais plus, je crois que c'est 100 000, ou c'est 80 000 ou 100 000 caméras connectées qui ont attaqué OVH.
Ça craint.
Donc des zombies.
Ouais.
100 000 caméras connectées. Ils ont réussi à arrêter l'attaque. Hein. Donc là, par exemple, ça, c'est une... l'interdépendance de dire tu t'invites des objets connectés chez toi qui peuvent pourrir la vie de serveur.
Et c'est ça. Après, le truc, c'est qui est-ce qui est prêt à accepter d'avoir des objets connectés chez soi qui régissent ta vie de tous les jours à tel point que tu en deviennes dépendant. Enfin, on est déjà dépendant du téléphone, d'Internet, etc. Tu vas pas devenir dépendant en plus de ta cuisinière ou de ta douche ou sous prétexte d'être high-tech.
Mais dans les 5 ans à venir, il n'y aura plus que ce type de produit.
Non, il y aura... Je suis pas aussi pessimiste que ça, mais... on va nous proposer ce type de produit, mais après, qui est-ce qui est prêt à accepter ça et pourquoi surtout ?
Mais malheureusement, je pense qu'il a raison largement, puisque regarde les téléphones maintenant actuellement, on trouve très peu de téléphones à clapet ou de téléphones à touche, comme celui-ci qu'on voit de Mumuman. Parce que justement, le nombre de personnes qui achètent ce genre de choses vont être potentiellement quelques personnes âgées, et encore. Ça peut être des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un téléphone pisté ou un téléphone pas trop cher ou ce genre de choses. Mais au final, c'est plus rien. Ça commence à être un peu les dinosaures de la partie téléphonique. C'est en voie de disparition concrètement. Et qu'est-ce qui remplace maintenant ? C'est tout ce qui est tactile à fond. Regardez, l'ordinateur est en train de se faire remplacer par les tablettes tactiles. Ni plus ni moins. C'est le nouveau mode. C'est un mode en plus ultra fermé qui permet de cadrer les gens, de faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et du coup... c'est pareil, ça devient être l'élément le plus acheté actuellement au monde.
Donc tu penses que ça passerait d'abord, dans un premier temps, par la crédulité des personnes âgées qui aiment bien la simplicité d'utilisation d'une tablette plutôt qu'un ordinateur et finalement qui contrôlent leur
ou des jeunes en fait. Hein.
Les enfants, les familles, les mères de famille qui parfois ne comprennent pas comment un ordinateur fonctionne.
Qui m'a fait flipper, c'est que moi je suis un grand fan de la série Black Mirror.
Oui,
j'ai vu il n'y a pas longtemps une application qui permet de noter, comme dans un épisode, qui
de
permet
noter
de noter
gens.
Les gens.
Tout à fait.
Mais qui est-ce qui va télécharger ça et
c'est Reddit's Person, non ? Je suis un truc dans le genre, c'est Note la personne.
Je ne sais pas le nom de l'application parce que je m'en fous, je ne veux pas savoir parce que ça me.
C'est niveau social. Plus ta note est haute, plus ton niveau social est haut, et plus ta note est basse, et plus tu t'es qu'une merde.
Mais au final, on regarde, il y a aussi un autre élément. Par exemple, tu as la console Xbox One qui a fait un gros scandale. Je ne sais pas s'il y en a la plupart qui ont suivi. Cette console était censée donc être dans ton salon, connectée à Internet, mais continuellement connectée.
Mais voilà, mais là, ça
a récupéré des infos sur toi.
Là, les joueurs n'en ont pas voulu et Kinect est accrové officiellement. Ça y est, c'est que... Kinect, Microsoft a arrêté.
Mais parce que, pourquoi ? Il y a eu beaucoup de personnes qui en ont informé, qui ont mis en danger les gens, mais en même temps, Microsoft sont tirés une balle dans le pied avec un système qui, ben, effectivement, était très long à charger, les jeux
En plus, aussi, t'es obligé de... Tu peux pas passer à côté
c'est
de
David
ça,
Assolap.
Mais ça a augmenté le prix de la console de 100 euros.
Mais au final, la Kinect 2, comme ils l'appellent, elle observait beaucoup de choses. Le rythme cardiaque, quelle température ton corps avait, si tu disais la vérité, si tu mentais, et elle enregistrait tous les éléments clés de ta voix.
Si ça n'a pas marché, Kinect, c'est parce qu'aux États-Unis, par exemple, le marché principal, le débit n'est pas suffisant.
Il y a ça aussi, tout à fait. Donc, mais la plupart du marché, ouais.
C'est ça qui a fait que ça.
Je pense quand même que le principal truc...
S'il y avait eu un réseau correct aux États-Unis hors des villes,
ça aurait pu marcher, on est d'accord.
Je suis pas sûr, je pense quand même que le principal truc qui a fait que Kinect n'a pas marché, c'est que surtout qu'il y avait des jeux de merde dessus.
Oui, essentiellement.
Non, mais en fait.
Non, parce que quand on voit Star Wars Kinect, par exemple.
C'était pas ça que tu vendais avec une Xbox, tu vendais la Xbox, et en effet.
On revient sur le sujet.
Tu vendais Kinect en plus, non, tu vendais Kinect.
En gros, le module qui était embarqué derrière était censé, avec tout ce que tu avais dit, tout ce que tu avais enregistré, te proposer des achats, ce genre de choses, parce qu'elle avait entendu des mots, même quand elle n'était pas activée.
En même temps, c'est ce qu'on a dans nos téléphones maintenant.
Mais t'imagines des contraintes pareilles quand te facture 100$ de plus. Mais qui accepterait ça ? Personne. Et d'ailleurs, du coup, Kinect s'est planté. Voilà. Heureusement, oui.
Et il y a tous les... Alors, on avance dans l'émission, mesdames, et on n'a pas parlé de sécurité, quand même.
On a parlé de la qui ?
Si, c'est rapide, hein. Juste un mot, il n'y en a aucune.
Ouais. Voilà.
De toute façon, je pense qu'on pourra même conclure qu'il n'y a aucune sécurité tant qu'il y aura de hackers, puisqu'il y aura toujours un moyen de contourner. Il y a toujours une faille de sécurité quelque part. On n'est jamais parfait dans notre code.
Ouais, non, mais c'est pire que ça, parce qu'en fait, c'est pas pensé pour la sécurité. Pour la sécurité pour les fabricants d'objets connectés, c'est une externalité. Ils n'y pensent que quand ils ont des problèmes. Comme quand il y a les caméras ou il y a les mots de passe par défaut et tout, le fabricant se dit « Ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça ».
Et vous savez c'est quoi le pire, pour conclure ? C'est lorsque ton modem Wi-Fi n'a plus de batterie, il n'enregistre plus ton mot de passe, donc il est ouvert.
Wow.
Ah, c'est pas mal celle-là.
Elle est... On dirait, certains Richard diraient que je voudrais dire que je suis pas un utilisé.
Ah, c'est clair, oui. C'est clair. Je crois qu'effectivement, tu as raison sur cette question.
Les gens sur Facebook ne sont pas des utilisateurs.
Je veux être un utilisateur, mais pas un utilisé.
C'est très bien. C'est très bien conclu. Merci, Sergent Slayer.
Et m'a farté dessus, donc il m'a béni. J'ai un saint pou, un saint pou, un saint... un saint gnu
pou. Saint Ignatius.
C'est ça.
Merci.
Eh bien, merci Sergent Slayer pour ta conclusion. Merci Anya, merci Mimen, merci Elo, merci Matt et merci Vic Engines qui est venu nous rejoindre. Et on vous dit à très bientôt.